VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Michel Joseph, en votre compagnie ce matin, Bagassi Koura, dans quelques instants, sera à mes côtés. Bienvenue à cette édition du vendredi 1er avril 2015. Au sommaire ce matin, en Centrafrique, des militaires français déployés dans le cadre de l'opération Sangari sont soupçonnés d'avoir abusé sexuellement des enfants lors de leur mission à Bangui.
La justice centrafricaine tient à ce que la lumière soit faite sur cette situation qui constitue quand même des faits d'une extrême gravité.
Au Burundi, un militaire a été tué hier et un civil blessé par un officier des services de renseignement à Bujumbura. L'armée nigériane affirme avoir libéré 150 otages du groupe Boko Haram. La police de la ville Baltimore a remis hier un rapport d'enquête à un procureur du Maryland sur la mort d'un jeune noir après son interpellation par la police. Ne manquez pas la Minute Éco et les sports, mais avant, le journal.
Alors on commence par le Burundi où un militaire a été tué hier et un civil blessé par un officier des services de renseignement à Bujumbura. Giorgio Leona Sagno.
Des manifestants venus du quartier de Moussaga voulaient converger vers le centre-ville. Un officier des services de renseignement a ouvert le feu près d'une barricade, tuant un militaire et blessant un civil. Les protestataires avaient arrêté son véhicule car les agents du Service national de renseignement, rattachés à la présidence, sont très redoutés. Le véhicule a été incendié. Dans le quartier Runanira, 9 opposants à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza ont été blessés dans de nouveaux affrontements avec la police. Par mesure de prudence, le gouvernement a fermé les résidences universitaires officiellement pour des problèmes de sécurité. Selon la Croix-Rouge burundaise, au moins 6 manifestants ont été tués depuis dimanche et une cinquantaine ont été blessés, dont des policiers. Un émissaire américain et un envoyé onusien sont à Bujumbura, la capitale, pour tenter de trouver une solution.
Suite à la découverte par l'armée de 4 fosses communes en territoire de Beni, dans l'est de la RDC, on s'interroge sur le sort de milliers de personnes enlevées par les rebelles ougandais des ADF et dont on est sans nouvelles. Des précisions d'Eddie Isango.
C'est le porte-parole des forces armées de la RDC, le major Victor Mansandi, qui a annoncé la mise à jour le week-end dernier des fosses communes dans un camp des ADF.
On a pu comprendre que c'était des ADF tombés sous les accrochages, mais aussi des otages, mais aussi ça peut être des fatigués, des malades et des blessés qui étaient dans les groupes ADF qui ont été exécutés sommairement et enterrés.
En effet, un groupe de la société civile de Beni affirme que sur 947 personnes enlevées par les ADF entre 2010 et 2013, 350 ont été réunies avec leurs familles entre 2014, mais on ignore le sort des autres.
L'armée nigériane affirme avoir libéré 150 autres personnes qui étaient prises en otage par le groupe Boko Haram. Le porte-parole de l'armée, le colonel Sani Ousmane, a précisé à VOA que les troupes ont libéré environ 100 enfants et 50 femmes mercredi dans la forêt de Sambisa, dans le nord du Nigeria. Cette vaste forêt abrite de nombreux camps de Boko Haram. Mardi, l'armée avait affirmé avoir libéré 200 filles et 93 femmes de la forêt. Donc ce mardi, les journalistes n'ont pas encore pu voir ces anciens captifs et l'armée n'a publié aucune photo d'eux.
Les habitants des îles nigériennes du lac Tchad doivent évacuer afin d'éviter de nouvelles attaques de Boko Haram. C'est ce qu'ont demandé jeudi les autorités locales après un assaut des islamistes de samedi qui a fait au moins 74 morts. Le Niger compte plusieurs îles sur le lac Tchad, une vaste étendue d'eau située entre le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad, régulièrement théâtre de raids meurtriers menés par les combattants de Boko Haram.
Dans le nord-est du Mali, les éléments de la plateforme Gatia, un groupe d'autodéfense proche de Bamako, ont été accueillis hier triomphalement à Menaka, près de la frontière avec le Niger. Lundi dernier, ils avaient chassé de cette ville les rebelles du MNLA, puis ont mené des opérations de ratissage en brousse. Il y aurait eu des combats en brousse. Les Gatia seraient revenus hier avec près de 40 véhicules et des armes saisies, mais pas un seul prisonnier. Témoignage de Rabat Idounan, un habitant de Menaka.
Oui, à Menaka, les Gatia, qui viennent de rentrer avec beaucoup de véhicules et beaucoup d'armes récupérées sur les combattants du MNLA. Il faut comprendre que quand les Gatia est rentré ici le lundi, il y a eu quelques échanges de coups entre eux et le MNLA. Le MNLA a pris la tangente, il est sorti de la ville et ils les ont poursuivis en brousse. Et c'est là qu'il y a eu la chasse aux hommes. Il paraîtrait qu'il y a eu des combats vers là-bas. En tout cas, la ville, on n'a pas senti ça. Mais en brousse, il y a eu des combats. Et témoin, les véhicules, plus de 40 et quelques véhicules, plus beaucoup d'armes, mais on n'a pas vu les détenus. Ils ont fait des otages, on n'a pas vu. Ils n'ont pas présenté ça à la population. Donc c'est ce qu'ils ont amené pour faire la fête avec la population. Tout Menaka est là.
Voilà, c'était Rabat Idounan, un habitant de Menaka dans le nord-est du Mali.
L'ex-chef de l'État ivoirien, Laurent Gbagbo, détenu par la Cour pénale internationale, a été déclaré jeudi président de son parti par un millier de militants. Mais la démarche a été jugée sans aucune valeur par la direction de cette formation en pleine crise. Selon l'AFP, ses partisans se sont retrouvés à Mama, ville natale de Gbagbo, dans l'ouest du pays, pour une cérémonie d'investiture de leur champion à la tête du FPI. Dans une déclaration écrite transmise à l'AFP, les partisans de Gbagbo ont annoncé leur refus de participer à la présidentielle d'octobre, exigeant notamment la libération du président Gbagbo, le candidat naturel du FPI, pour revenir sur leur décision.
Les autorités sanitaires américaines ont enfermé un centre de traitement mis en place au Libéria, au plus fort de l'épidémie d'Ebola l'année dernière. Cela fait plus d'un mois, 33 jours exactement, que le Libéria n'a pas enregistré un nouveau cas d'Ebola. Et si cela continue jusqu'au 9 mai, l'Organisation mondiale de la santé va probablement déclarer la fin de la maladie dans le pays. Les États-Unis ont déployé l'an dernier plus de 2000 soldats pour lutter contre le virus Ebola au Libéria et mis en place environ 15 centres de traitement. Les troupes américaines se sont retirées du pays en février avec la diminution des cas d'Ebola.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le puissant séisme survenu la semaine dernière au Népal a fait au moins 6204 morts et 13932 blessés, selon le dernier bilan officiel communiqué vendredi par les autorités du pays himalayen. Selon l'ONU, 8 des 28 millions d'habitants de ce pays ont été affectés par la catastrophe, dont 1,7 million d'enfants. Le séisme de magnitude 7,8 est le plus meurtrier au Népal depuis plus de 80 ans.
Le commandant militaire de l'OTAN, le général américain Philip Bidlow, a affirmé que l'organisation a besoin d'un meilleur renseignement militaire sur le terrain dans l'est de l'Ukraine, où selon lui, les forces russes semblent renforcer leurs positions militaires malgré deux mois de cessez-le-feu. Bridlow s'exprimait ce jeudi devant le comité du Sénat américain des services armés à Washington. Il a accusé Moscou de fournir des armes lourdes, de la formation et de l'encadrement aux rebelles pro-russes.
Les forces maritimes américaines accompagnent désormais les navires commerciaux battant pavillon américain à travers le détroit d'Ormuz à l'embouchure du golfe Persique afin d'assurer que ces navires ne rencontrent aucune interférence de l'Iran. Les autorités militaires américaines soutiennent que cette nouvelle politique a été adoptée en réponse à ce que Washington qualifie de comportement provocateur de l'Iran. Selon des informations, en début de semaine, des navires de guerre de la garde révolutionnaire iranienne ont tiré des coups de semonce à proximité d'un cargo battant pavillon des îles Marshall, détenant le navire et son équipage.
La police de la ville de Baltimore, ici aux États-Unis, a remis hier un rapport d'enquête à un procureur de l'État du Maryland sur la mort d'un jeune noir après son interpellation par la police. Jean-Roger Bion.
Le chef de la police, Anthony Batts, a indiqué hier que l'équipe chargée d'enquêter sur la mort de Freddie Gray a remis son rapport au bureau du procureur de l'État du Maryland. Freddie Gray, âgé de 25 ans, est décédé le 19 avril après avoir été arrêté et embarqué dans un fourgon de la police. Plusieurs enquêtes, dont l'une par le ministère fédéral de la Justice, ont été ouvertes pour déterminer les circonstances de sa mort. Depuis, des manifestations ont eu lieu à Baltimore, puis se sont répandues dans plusieurs villes américaines pour dénoncer les violences policières. Le maire de Baltimore a décrété un couvre-feu nocturne d'une semaine entre 22h et 5h du matin. Le gouverneur du Maryland avait instauré l'état d'urgence et jusqu'à hier, près de 2000 hommes de la garde nationale sillonnaient les rues de Baltimore.
C'est l'une des conséquences de l'exécution en début de semaine de deux Australiens condamnés à mort pour trafic de drogue. La National Portrait Gallery de Canberra a retiré un portrait du président indonésien Joko Widodo, disant craindre pour l'intégrité de l'œuvre. C'est ce que rapporte l'AFP. Furieuse contre l'exécution de ces deux ressortissants, l'Australie avait annoncé le rappel de son ambassadeur.
Et pour terminer, les ventes mondiales de tablettes informatiques ont de nouveau chuté. D'après le cabinet de recherche IDC cité par l'AFP, seulement 47,1 millions d'unités ont été écoulées au premier trimestre, soit 5,9 de moins qu'un an plus tôt.
Et tout de suite, l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Camille Gros-Didier.
La firme américaine Brookstone Partners envisage d'investir jusqu'à 450 milliards de francs CFA pour aider à financer la construction de trois barrages hydroélectriques en Côte d'Ivoire. Brookstone Partners est actionnaire de la société marocaine Platinum Powers, active dans le développement de centrales hydroélectriques. Platinum Powers a conclu un accord avec le gouvernement ivoirien pour développer des complexes à Gao, Koulikoro et Taïaboui. Et puis, la Société financière internationale, qui est membre du groupe de la Banque mondiale, a annoncé un accord de coopération avec la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Mali. But de l'opération, précise la SFI, dont les activités concernent exclusivement le secteur privé, renforcer la capacité des petites et moyennes entreprises et promouvoir le développement du secteur pharmaceutique du pays. Par ailleurs, toujours selon la SFI, la principale chaîne de supermarchés au Burkina, Marina Market, va bénéficier d'un prêt de 800 000 euros de l'institution internationale. Cet appui permettra au leader burkinabé de développer ses surfaces existantes. Et finalement, le pape François s'est prononcé pour la fin des différences de salaire entre les hommes et les femmes. Il a estimé qu'il s'agit d'un scandale que les chrétiens ne devraient pas cautionner.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, c'est l'heure des sports et j'accueille Timothée Donangmaye. Bonjour Timothée.
Bonjour Bagassi.
Week-end décisif pour les compétitions africaines interclub team.
Tout à fait Bagassi, on jouera en effet les huitièmes de finale retour. En Ligue des Champions, le RC Tif accueille le Raja de Casablanca, les deux clubs s'étant séparés à l'aller sur un nul, 2-2. Smoua affronte AC Léopard Dolizy, 1-0 à l'aller pour Dolizy. Al-Ali reçoit Maghreb Tétouan, victorieux 1-0 à l'aller. Le tout-puissant Mazembe reçoit le stade malien après leur 2-2 de l'aller. L'Espérance de Tunis offre l'hospitalité à El Merrek, vainqueur 1-0 à l'aller. La Escaloum, qui n'a pas digéré sa défaite 2-1 à l'aller, reçoit l'USM Alger. Le club sfaxien tentera sur sa pelouse de préserver l'acquis du 1-0 de l'aller contre Mouloudia. Même scénario pour El Hilal, vainqueur 1-0 de Sangabalende à l'aller.
Coup d'œil à présent à la Coupe de la Confédération Team.
De beaux duels en perspective ici également Bagassi. Le club africain et Amel Saad tenteront de se départager après leur nul 1-2 à l'aller. Même chose pour l'étoile sportive du Sahel qui reçoit Young Africans. Les Pirates d'Orlando seront les hôtes du CF Mounana après le 2-2 de l'aller. Avantage psychologique pour ASEC Mimosa qui reçoit les 11 créateurs après s'être imposé 1-0 à l'aller. Le FC MK reçoit Wari Wolves après s'être incliné par 2-1 à l'aller. Toujours en Coupe de la Confédération, les Hearts of Oak accueillent le Joliba qu'ils avaient défait 2-1 à l'aller. L'ASV de Kinshasa reçoit Royal Leopards, victorieux 1-0 à l'aller, Enfin, le FUS et Zamalek tenteront de se départager après leur 0-0 de l'aller. À présent, Bagassi, la suite des playoffs de la NBA, le championnat nord-américain de basketball professionnel.
Oui, les Chicago Bulls ont écrasé hier soir les Milwaukee Bucks dans leur salle 120-66 lors du match numéro 6 de leur série. Les Bulls remportent donc la série 4-2 en infligeant la troisième plus large défaite de l'histoire des playoffs, 54 points à la jeune et prometteuse équipe de Milwaukee. Dans la conférence Ouest, les Clippers de Los Angeles ont tenu tête à San Antonio avec cette victoire de justesse de 102-96. Les deux équipes sont désormais à égalité dans la série 3-3 et devront être départagées lors de la 7e et dernière rencontre. Voilà, Bagassi Courant, votre compagnie pour cette édition du vendredi 1er mai 2015. Place maintenant au dossier du jour. En Centrafrique, de graves accusations de viol et d'agression sexuelle sur des enfants de 9 à 11 ans ont été portées contre des militaires français. Des militaires déployés dans le cadre de l'opération Sangaris sont soupçonnés d'avoir abusé sexuellement des enfants lors de leur mission à Bangui. Félix et Passy Zembrou.
L'affaire, qui faisait l'objet d'un document confidentiel de l'ONU transmis aux autorités françaises, a été dévoilée cette semaine par le quotidien britannique The Guardian. Elle remonte à décembre 2013 et juin 2014, période durant laquelle les violences intercommunautaires entre les miliciens anti-Balaka et l'ex-rébellion Séléka ont poussé des milliers de civils à se réfugier sur le site de l'aéroport international de Bangui Mpoko sous contrôle des forces de l'opération Sangaris. Réaction du procureur de la République, Ghislain Grézingué, joint à Bangui.
La justice centrafricaine tient à ce que la lumière soit faite sur cette situation qui constitue quand même des faits d'une extrême gravité. Pour ce faire, le parquet vient d'ouvrir automatiquement une enquête afin de chercher à faire la lumière et d'établir les responsabilités.
Si les faits sont avérés, la justice centrafricaine prendra contre les auteurs toutes les mesures qui s'imposent, a souligné le procureur de la République, Ghislain Grézingué.
Mais si les faits s'avéraient exacts, vérifiés, mais vous savez que la procédure que nous déclenchons au niveau du parquet, c'est pour permettre à ce que l'action publique aille jusqu'au bout. Nous disons que notre procédure doit conduire au prononcé d'une peine, une sanction pénale pour sanctionner les auteurs de cet acte ignoble.
Pour sa part, le président français François Hollande a assuré qu'il sera implacable si certains militaires se sont mal comportés en Centrafrique.
Si certains militaires, je n'en sais pour l'instant pas plus, s'étaient mal comportés, eh bien, il y aurait des sanctions qui seraient à la hauteur de la confiance que nous portons à l'égard de l'ensemble de nos armées. Parce que moi, je suis fier de nos armées et donc implacable à l'égard de ceux qui se seraient mal comportés, si c'est le cas en Centrafrique.
Les accusations ne donnent aucun nom. 14 soldats français sont soupçonnés d'être impliqués. Parmi ces militaires, très peu ont été identifiés, indiquait une source judiciaire à l'agence France-Presse, sans en dévoiler le chiffre précis.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Voilà, aujourd'hui c'est la fête du travail et les travailleurs nigériens prieront au lieu de célébrer leur fête cette année pour marquer leur compassion aux familles des victimes de leur dernière attaque de la secte Boko Haram qui a fait plus de 70 morts civiles et militaires. Les syndicats ont décidé donc de ne pas faire des actes de réjouissance comme le traditionnel défilé par exemple. Ce 1er mai, fête du travail dans le monde. Reportage de notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
Il n'y aura pas le traditionnel défilé des travailleurs ce 1er mai 2015 sur l'ensemble du territoire national. C'est la décision prise par les responsables syndicaux du pays pour marquer aussi leur compassion après la plus meurtrière attaque de la secte islamiste Boko Haram contre une position des forces de défense et de sécurité du Niger le samedi 25 avril dernier. Jibrila Idrissa et Sako Mamadou, responsables des deux plus grandes centrales syndicales du pays.
Après analyse, nous avions dit, à lieu et place du défilé du 1er mai, nous allons organiser des prières collectives aussi bien à Niamey qu'à l'intérieur du pays. Pour le cas de Niamey, Nous envisageons d'organiser cette prière collective au niveau de la grande mosquée.
Nous avons jugé utile, comme c'est des fils du Niger qui sont tombés sur le champ de l'honneur, d'aller faire des prières collectives ici à Niamey. On a demandé à tous les militants de converger vers la grande mosquée à partir de 8h pour prier pour le repos de l'âme de nos illustres disparus.
Ce vendredi 1er mai coïncide en effet avec le troisième et dernier jour du deuil national décrété par le gouvernement. Le pays fait face également à une grave épidémie de méningite. Salamatou Mariko et Al-Mustapha Moussa, deux responsables syndicaux.
Unanimement, nous nous sommes retrouvés pour dire que non, nous n'allons pas défiler parce que nous n'allons pas faire une fête, nous n'allons pas avoir des liesses pendant que notre pays est en deuil, pendant que nos frères, nos enfants sont sous terre et pendant qu'il y en a d'autres qui triment sous le soleil et cherchant à protéger nos vies.
Indépendamment de cette attaque, vous n'êtes pas sans le savoir qu'aujourd'hui, c'est aussi une épidémie de méningite qui est en train de faire des ravages. Nous allons prier pour que Allah continue à sauver ce pays de tous ces actes malheureux auxquels on est en train d'assister.
La transmission des cahiers de doléances sera aussi faite par voie administrative en lieu et place de la cérémonie à laquelle elle donne lieu chaque 1er mai. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Direction la Mauritanie, où des milliers de personnes ont marché cette semaine à Nouakchott, la capitale, en réponse à l'appel des initiateurs du manifeste pour les droits politiques, économiques et sociaux des descendants d'esclaves, appelé Aratine. Leurs revendications sont contenues dans un manifeste qui revendique, entre autres, une discrimination positive en faveur des Aratines. Le point avec notre correspondant en Mauritanie, Brahim Dia.
Le manifeste propose, je cite, de revoir les règles de partage du pouvoir pour attribuer un quota stable de 40% minimum à la communauté haratine au niveau des institutions constitutionnelles, du gouvernement, des administrations et établissements publics et des postes de hauts fonctionnaires de l'État. Fin de citation. Ce quota de 40% est-il juste? Mohamed Valoul Hendeye est coordinateur du manifeste.
Si on applique l'arithmétique pure et dure, les haratins représentent 57% de la population mauritanienne.
Ce chiffre de 57% est une estimation. En Mauritanie, aucune statistique officielle ne révèle le poids démographique des haratines ou des autres composantes. Parmi les marcheurs, des militants de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie, IRA. Ils ont donné de la voix pour demander la libération de leur président, Biramoul Daoul Abeid, et de ses deux co-détenus, Djibi Sow et Brahim Oul Bilal. Le président de IRA et ses co-détenus purgent une peine de 2 ans de prison pour acte de rébellion non armée. Ils ont été arrêtés pendant une caravane contre l'esclavage foncier. Hamadi Oulahbous, militant de IRA Mauritanie.
Notre présence ici entre exactement dans le cadre de la mobilisation générale qui a été enclenchée depuis le 11 novembre. Le refus des haratines de toute la manipulation que l'État fait depuis le 11 novembre, l'arrestation des militants des droits de l'homme.
Les partis politiques de l'opposition mauritanienne ont fortement pris part à cette marche. Idou Moul Mohamed Lemine est du Rassemblement pour la démocratie et l'unité, RDU.
Je suis ici parce que je suis favorable à l'égalité absolue entre toutes les composantes du peuple mauritanien et je suis favorable à ce qu'une solution soit trouvée au problème des inégalités, quelles qu'elles soient.
Les initiateurs du manifeste ont voulu organiser une marche nationale dépassant les clivages politiques. C'est raté. Aucune formation politique de la majorité soutien du président de la République Mohamed Oul Abdelaziz n'a pris part à cette marche. Le gouvernement mauritanien a pourtant adopté en Conseil des ministres au début de ce mois un projet de loi durcissant les sanctions à l'encontre des auteurs de pratiques esclavagistes. Ce texte passera très prochainement à l'Assemblée nationale. Brahim Dia à Nouakchott pour La Voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
En France, le projet de loi sur le renseignement qui prévoit de surveiller les communications des internautes inquiète les militants des droits humains, mais aussi certaines entreprises du numérique qui n'hésitent pas à se mobiliser contre la surveillance de masse. C'est le cas de Waller, plateforme qui permet aux particuliers, aux associations comme aux entreprises de créer leur propre réseau, complètement réseau social, donc complètement privé. Thomas Fouret est fondateur de Waller Studio. Il revient donc sur les spécificités de ces réseaux privatifs.
Il est bâti sur cette idée que les internautes aujourd'hui en ont sûrement un peu assez qu'on exploite leurs données, qu'ils soient eux-mêmes le produit des grandes plateformes. Et c'est-à-dire que les utilisateurs qui viennent sur Waller, ils y viennent parce qu'ils ont besoin de trouver un espace de confiance sur Internet. C'est une promesse qui est vérifiée, c'est-à-dire que le contenu n'est pas trouvable sur Google, par exemple, puisque les réseaux sociaux sont privatifs, sont étanches. On a besoin d'être connecté pour accéder aux données. Ça va même beaucoup plus loin. Par défaut, on ne trouve pas l'existence même d'un réseau social Waller sur Google, puisque l'idée, c'est que chacun puisse créer en toute tranquillité son réseau de famille, son réseau pro, etc.
Alors j'imagine que vous faites partie de ces nombreux acteurs d'Internet qui trouvent que ces nouvelles lois et ces nouvelles règles de surveillance du net sont liberticides.
Oui, absolument. Elles vont à l'encontre même de la simple liberté de s'adresser à quelqu'un et de pouvoir lui dire ce qu'on veut. D'un autre côté, on n'est pas non plus dans une position absolue où on voudrait maintenir une sorte de liberté qui n'existe pas en fait sur le web. Mais il faut être pragmatique. La plupart des gens sont pas nécessairement concernés par ces mesures-là. Vous savez, la surveillance, c'est une chose. L'exploitation au quotidien à travers la publicité, c'en est une autre qui est bien plus grande que celle de la surveillance. Honnêtement, ce qui gêne aujourd'hui sur Internet, c'est le fait qu'on ne contrôle pas ce qu'on écrit sur le web. Quand j'écris sur Facebook un message, je crois l'écrire à quelques-uns de mes amis, et bien 2 ans plus tard, mes nouveaux amis verront ce que j'ai écrit il y a 2 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut simplement dire qu'on ne contrôle pas tout à fait ce qu'on dit et à qui sur ces réseaux, parce qu'ils sont faits pour être viraux. Et ils sont faits pour que le plus de liens possible entre les gens se créent. Nous, on se moque pas mal de créer une quantité de liens entre les personnes. Ce qu'on veut, c'est créer de la qualité de liens. Et tant mieux si les réseaux sociaux privatifs ne contiennent que 10 personnes, que 20 personnes. Ce sont les meilleurs réseaux qui fonctionnent parce qu'ils collent à la vie réelle. On n'est pas capable d'être en relation réelle avec 500 ou 5000 personnes. Et ces modèles-là, en fait, sont caducs, ne correspondent pas tout à fait à notre vraie vie.
Voilà, c'était Thomas Ferré, fondateur du Waller Studio, au micro de Claire Morin-Gibourg.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux de la musique africaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Voilà, c'est la fin de cette édition. Au micro, c'était Bagassi Courin. Un grand merci à toute la rédaction de VOA Afrique. Michel Joseph était à la production. Ainsi va le monde aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end.
au cœur de l'info sur